Un adolescent, livre 2, chapitre 6. J'habitais près du pont de l'Ascension, dans une grande maison sur la cour. En franchissant la porte cochère, je me heurtais presque à Versilov qui repartait. Selon ma coutume, je suis venu en me promenant jusqu'à ton logis. Je voulais d'abord t'attendre chez Pierre Hippolytovitch, mais il se querelle obstinément, sa femme et lui, et même en ce moment, elle larmoie. Je me sentais contrarié. On croirait que, sauf votre Pierre Hippolytovitch et moi, vous n'avez personne à voir dans Pétersbourg. Mon ami, mais n'importe. Où allez-vous de ce pas? Voulez-vous remonter? Non, mais si tu veux, faisons un bout de chemin, la soirée est à souhait. Si vous ne vous obstiniez pas à spéculer sur des abstractions, et si, par exemple, vous aviez dit un mot sur la sottise que j'ai de jouer, peut-être ne me serais-je pas laissé entraîner comme un imbécile, dis-je tout à coup. Tu te repens? C'est bien. J'ai toujours présumé que le jeu chez toi n'était pas l'affaire principale, mais seulement un écart temporaire. Tu as raison, mon ami. Le jeu est une cochonnerie, sans compter qu'on peut se ruiner. Et perdre l'argent d'autrui? Et tu as perdu l'argent d'autrui? Le vôtre. Je puisais chez le prince, à votre compte. Évidemment, ce fut une absurdité et une bêtise de ma part de prendre votre argent pour le mien, mais je prétendais toujours me refaire. Je t'avise, encore un coup, mon cher, qu'il n'y a pas là-bas d'argent qui m'appartienne. Je sais que ce jeune homme est embourbé lui-même, et malgré ses promesses, je ne le considère point du tout comme mon débiteur. En ce cas, je suis dans une situation doublement mauvaise. Je suis dans une situation ridicule. À quel titre me prêterait-il et lui emprunterais-je à présent? C'est ton affaire. Mais bien franchement, dis-moi, tu n'as aucune raison particulière de t'adresser là, hein? Sauf la camaraderie. La camaraderie laissée de côté. Et je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque autre considération qui t'ait fait trouver normal de profiter de sa bourse? Quelle considération? Je ne comprends pas. Tant mieux que tu ne comprennes pas. Et j'avoue, mon ami, que j'en étais sûre. Brisons-la, mon cher, et efforce-toi de ne pas jouer. Si vous m'en aviez prié plus tôt, mais maintenant encore, vous me le dites d'un ton si flegmatique. Et si je te l'avais dit plus tôt, nous nous serions fâchés, et tu ne m'aurais pas accueilli chez toi si volontiers. Sache, mon ami, qu'on peut se faire scrupule de donner un conseil, même salutaire. Je ne me suis que trop immiscée dans la conscience des autres, et en dernière analyse, cela ne m'a valu que désagréments et railleries. Je me moque, bien entendu, des désagréments et des railleries, mais le malheur est que, quand même, on n'aboutit à rien. Personne ne vous écoute, et tout le monde cesse de vous aimer. Je suis content de vous voir prendre pied dans la réalité, et puisque je vous y tiens, je vous interroge, comme la rue favorise les confidences. Vous souvient-il d'un certain soir, c'était il y a 2 mois, où nous étions assis dans le cercueil? Je vous questionnais sur maman et sur Makar Ivanovitch. Vous souvenez-vous de quel ton dégagé je parlais? Était-il admissible qu'un fils parlât en pareil terme de sa mère? Or, vous n'avez pas fait entendre le moindre mot de protestation. Au contraire, vous vous êtes déboutonné vous-même et m'avez ainsi donné plus de licence encore. Mon ami, je suis heureux de voir en toi ces sentiments. Oui, je me souviens bien que j'attendais que la rougeur parût sur ton visage. Si je te provoquais, c'était peut-être pour te mener jusqu'aux bornes. Vous n'avez fait que m'obscurcir l'âme davantage. Oui, je suis un malheureux adolescent, et jamais je ne sais où est le bien, où est le mal. Si vous m'aviez montré alors un tout petit bout de chemin, j'aurais deviné et j'aurais pris tout droit. Cher enfant, j'ai toujours pressenti que de façon ou d'autre nous nous entendrions. Cette rougeur sur ton visage est venue d'elle-même, sans mes indications, et cela, je te jure, vaut mieux pour toi. Mon cher, J'ai remarqué que tu as beaucoup gagné ces derniers temps. Est-ce dans la société de ce petit prince ? Ne me flattez pas, cela me déplaît. Ne donnez pas prise au soupçon que vous dites cela par hypocrisie, au détriment de la vérité, pour ne pas cesser de plaire. Et ces derniers temps, voyez-vous, j'ai fréquenté chez des femmes. Je suis très bien reçue chez Anna Andreïevna, par exemple. Vous le savez ? Je le sais d'elle-même, mon amie. Oui, elle est agréable et intelligente. Mais brisons-la, mon cher. Je me sens aujourd'hui singulièrement mal en point. Est-ce l'hypocondrie ? J'attribue cet état de malaise à mes hémorroïdes. Qu'y a-t-il eu à la maison ? Rien ? Tu as fait la paix et il y a eu des embrassades. Cela va sans dire. Il est bien triste parfois de revenir chez elle, même après la plus désagréable promenade. Il m'arrive de faire un crochet sous une pluie battante pour retarder mon retour dans cet intérieur. Quel ennui ! Quel ennui ! Ah, Dieu ! Maman, ta mère est l'être entre tous parfait et adorable. Mais, bref, il est à présumer que je ne les vaux pas. À propos, qu'ont-elles aujourd'hui ? Ces derniers jours, elles ont tout un air... Tu sais, je tâche toujours d'ignorer, mais aujourd'hui, elles trament quelque chose. Tu n'as rien appris ? Rien ? Et je n'aurais même pas remarqué qu'elles eussent des préoccupations sans cette maudite Tatiana Pavlovna qui tombe toujours en arrêt sur moi. Mais vous avez raison, il y a quelque chose. Tantôt, j'ai rencontré Lise chez Anna Andreïevna. Déjà là-bas, elle était toute... Même elle m'a étonnée. Vous savez, n'est-ce pas, qu'elle est reçue chez Anna Andreïevna ? Je sais, mon ami. Et toi ? Quand t'es-tu trouvé chez Anna Andreïevna ? Je veux dire, à quelle heure au juste ? J'ai besoin de le savoir pour établir un fait. De 2 à 3. Et imaginez-vous, comme je sortais, arriva le prince. Et je lui racontai ma visite avec grand détail. Il écouta sans rien dire et ne souffla mot touchant l'éventualité d'une demande en mariage faite par le prince à Anna Andreïevna. Aux éloges enthousiastes que je décernais à celle-ci, il répondit de nouveau qu'elle était gentille. J'ai réussi à l'étonner en lui faisant part d'une nouvelle toute fraîchement confectionnée, à savoir que Catherine Nikolaïevna Akhmakov allait s'unir en juste noces au baron Bioring. Dis-je tout à coup, et comme si quelque chose en moi s'était brusquement déclenché. Vraiment ? Eh bien, imagine-toi que cette même nouvelle, elle me l'avait communiquée avant midi, c'est-à-dire quelques 3 heures avant que tu pusses jouir de son étonnement. Que dites-vous ? Fis-je en m'arrêtant net. Comment a-t-elle pu savoir ? Au fait, elle pouvait parfaitement être renseignée avant moi, mais figurez-vous, elle a accueilli mon information comme une nouvelle toute vierge. Du reste quoi ? Vive le libéralisme ! Ayons de la largeur d'esprit ! N'est-ce pas qu'il faut admettre les caractères avec toutes leurs particularités ? Moi, par exemple, j'aurais tout de suite montré que je savais à quoi m'en tenir. Elle fourre les secrets dans sa tabatière. Soit ! Et cela n'empêche pas qu'elle soit un être charmant et un caractère noble. Sans doute. Que chacun reste conforme à soi-même. Et ce qu'il y a de piquant, c'est que ces nobles caractères ont parfois le trait singulièrement direct. Imagine-toi qu'Anna Andreïevna, sans crier gare, m'a posé aujourd'hui cette question. « Est-ce que vous aimez Catherine Nikolaïevna Akhmakov ou non ?»« Quelle question saugrenue ! » m'écriai-je, stupéfait surtout de lui voir aborder spontanément ce sujet-là. « Et comment a-t-elle expliqué ?» Elle m'a privé de tout commentaire, mon ami. La tabatière s'est refermée. Et d'ailleurs, je ne saurais guère admettre, entre elle et moi, de conversation sur ce point. Au surplus, tu la connais, et tu peux voir combien une question de cet ordre sied à son genre de beauté. Mais peut-être sais-tu quelque chose ? Je suis étonnée non moins que vous. Une curiosité quelconque ? Une plaisanterie ? Point. Une question des plus sérieuses, posée sur un ton comme inquisitorial, suscitée par une cause précise. Iras-tu chez elle? Ne pourras-tu pas savoir quelque chose? Je l'aurais même prié, vois-tu. Mais la possibilité, surtout, la possibilité seule de supposer que vous ayez de l'amour pour Catherine Nikolaïevna. Pardonnez-moi, je ne suis pas encore revenue de ma stupéfaction. Jamais, jamais je ne me suis permis de vous parler d'un sujet de cette nature. Et tu avais raison, mon ami. Vos aventures de jadis, il y aurait je ne sais quoi d'inconvenant à effleurer avec vous ce sujet. Et récemment, je me disais encore que si vous aviez, fût-ce un instant, aimé cette femme, jamais vous n'auriez commis à son égard une si terrible erreur d'opinion. Cette erreur, tout l'indique, a pour cause l'aversion endurcie. Oui, l'endurcissement dans l'animosité et dans justement le non-amour. Et Anna Andreïevna vous pose la question « Aimez-vous ? Est-elle donc si mal renseignée ? C'est absurde, elle plaisantait. Je vous assure qu'elle plaisantait. » Mais je remarque, mon cher, et sa voix me pénétrait jusqu'au cœur, je remarque que tu parles avec bien du feu de cela. Tu viens de dire que tu étais en relation avec des femmes. Te questionner sur ce sujet, c'est évidemment gênant, comme tu l'indiquais. Mais cette femme, ne se trouverait-elle dans la liste de tes amis? Cette femme? Écoutez, Andrei Petrovitch, écoutez. Cette femme correspond à ce que vous disiez tantôt chez le prince, de la vie vivante. Vous vous souvenez? Vous disiez que cette vie vivante est quelque chose de tellement simple et accessible et qui vous regarde avec une telle droiture que justement pour cette droiture et cette simplicité, il n'est pas possible de croire que ce soit précisément ce que nous cherchons toute notre vie avec tant de peine. Eh bien, vous avez rencontré une femme qui avait ce regard. L'idéal est dans la perfection. Vous avez rencontré l'idéal. Vous avez rencontré cette femme unique et vous lui avez reconnu tous les vices. Voilà. Tous les vices. Oh, je connais cette phrase, s'exclama Versilov. Et si tu en es là qu'une telle phrase te soit communiquée, il convient peut-être qu'on te félicite. Cela prouve une telle intimité entre vous. Ma foi, il semble bien que tu mérites des éloges pour une modestie et une discrétion dont peu de gens sont capables. » Sa voix se timbrait d'un rire engageant et amical. Son visage, autant que je pouvais distinguer dans la nuit, me parut s'animer singulièrement. « La modestie ? Le mystère ? Oh non, non » clamai-je, et je m'emparai de sa main que je ne lâchais plus. « Non, il n'y a pas lieu. Et de quoi me féliciteriez-vous ? De rien. Il ne pouvait rien se passer. Voyez-vous, mon cher, mon bon papa, vous me permettrez de vous appeler papa. Il est infâme de parler de ses relations avec une femme. Un confident est impossible. Mais quand il n'y a rien, absolument rien, on peut parler alors. On le peut. » Si le cœur t'en dit. Une question indiscrète, très indiscrète. Dans votre vie, vous avez connu des femmes. Je vous demande cela, en général, pas particulièrement. Admettons qu'il y ait eu des péchés. Alors, voici un cas, et vous expliquez-le-moi, en homme plus expert. Voici. Tout d'un coup, la femme dit, comme par hasard et regardant de côté, « Demain, à 3 heures, je serai là. » Ou là. Supposons que ce soit chez Tatiana Pavlovna. L'émotion m'étranglait, je ne pouvais plus parler. Enfin, je repris et il m'écoutait avec grande attention. Et le lendemain, à 3 heures, j'arrive chez Tatiana Pavlovna. Avant d'entrer, je raisonne ainsi. La bonne ouvrira la porte. Vous savez, sa bonne. Et je demanderai avant tout, Tatiana Pavlovna est-elle à la maison ? Et si elle dit que Tatiana Pavlovna n'est pas à la maison, mais qu'une visiteuse l'attend, que dois-je alors en conclure? Dites, si vous... En un mot, si vous... Tout simplement qu'un rendez-vous t'avait été fixé. Et c'était cela. Et c'était aujourd'hui? Qui? Non, non, rien, rien. Cela était, mais ce n'était pas cela. Un rendez-vous, mais pas pour cela. Et je le déclare avant tout, pour ne pas être un lâche. C'était... Mais... Mon ami, tout cela devient tellement curieux que je te propose. Mon or s'offrait à tout venant, jadis, or c'est quelques copecs qu'ex-lieutenant je sollicite. Et un quémandeur de haute taille, quelque ci-devant lieutenant peut-être, nous barra la route. 3. Si vous ne vous éloignez pas, monsieur, j'appelle la police. Menaça Versilov d'une voix qui ne lui était pas naturelle. Je ne me serais jamais figuré une telle colère chez un tel philosophe, et pour une cause aussi futile. « Alors, vous n'avez même pas 15 copecs ? » cria brutalement le lieutenant en agitant la main. « Quelle sale racaille ! C'est vêtu de loutre, et donner 15 copecs, c'est pour eux une affaire d'État. »« Agent ! » héla Versilov. Un policier était à quelques pas qui avait pu entendre l'aimable dialogue. « Vous êtes témoin de l'insulte, » lui dit Versilov. « Je vous prie, venez avec nous au commissariat. »« Comme vous voudrez, » gouailla le mendiant. « Ça ne prouvera absolument rien. Surtout, ça ne prouvera pas que vous ayez de l'esprit. »« Ne le lâchez pas et conduisez-nous, » insista Versilov. « Est-ce que vraiment nous allons au commissariat ?» « Envoyez-le au diable !» lui dis-je tout bas. « Absolument, mon cher, ce désordre dans nos rues devient indécent et finit par ennuyer tout le monde. Si chacun faisait son devoir, tout irait mieux. C'est comique, mais c'est ce que nous ferons. » Durant une centaine de pas, le lieutenant plastronna, déclarant qu'agir comme on faisait à son égard était misérable, que pour 15 copecs, etc. Puis, il se mit à parler à voix basse au policier. Celui-ci, en homme pondéré et ennemi des esclandres, semblait être de son avis, mais dans un sens seulement. Et l'on l'entendait marmonner des « c'est trop tard maintenant », des « une affaire en est résultée ». Enfin, sur un « si vous aviez des excuses et que monsieur les eût acceptées », l'inculpé prit la parole. « Écoutez, monsieur, est-il intelligent de courir de ce train? Si un homme consent dans ses malheurs à faire des excuses, si enfin vous avez besoin de son humiliation, que diable, nous ne sommes pas dans un salon, mais dans la rue. Pour la rue, j'en ai assez dit comme excuse. » Versilov s'arrêta et bruyamment se mit à rire. « Vous êtes complètement excusé, monsieur l'officier, et croyez bien que j'apprécie vos mérites. « N'agissez pas autrement dans les salons. C'est bien bon pour les salons aussi. En attendant, voici 2 pièces de 20 copecs. Allez manger et boire. Mes excuses à Jean pour vous avoir dérangé, et mes compliments de vous être tenu sur un pied si noble. « Mon cher, » continua-t-il en me prenant par le bras, « il y a là une gargote assez répugnante, mais on y peut prendre du thé, et je te proposerai... » Je le répète, je n'avais jamais vu Versilov dans un tel état de surexcitation. Pourtant, son visage était rayonnant. Mais j'ai remarqué que quand il voulut extraire de son porte-monnaie les 2 pièces de 20 copecs pour les donner à l'officier, sa main tremblait, de sorte qu'il me pria de les prendre et de les remettre au lieutenant. Je ne peux pas oublier cela. Il m'emmena dans une pauvre taverne située en contrebas de la rue. Il y avait peu de monde, un petit orgue de barbarie désaccordé et rauque était en train de moudre des notes dans l'odeur des torchons graillonneux. Nous prîmes place à l'écart. Tu ne sais pas, j'aime aux heures d'ennui, aux heures de grande détresse morale, entrer dans ces bouges. Ces tables, cet air bégayant de Lucie, ces costumes nationaux en haillons, ces relents de tabac et ce bruit de carambolage, tout cela est à tel point trivial que cela confine au fantastique. Que disions-nous donc, mon cher? ce fils de Mars nous a interrompus, il me semble, à l'endroit intéressant. Voilà le thé. J'aime le thé, ici. Figure-toi que Pierre Hippolytovitch affirmait à ce locataire, tu sais, celui qui a eu la petite vérole, lui affirmait que le Parlement anglais avait, au XVIIIe siècle, nommé une commission d'hommes de loi pour instruire le procès du Christ, uniquement pour savoir comment ça se passerait à présent, d'après nos lois modernes, et que tout avait été représenté en grand appareil judiciaire. Eh bien, les jurés avaient rapporté de leur salle de délibération un verdict affirmatif sur toutes les questions. Le locataire se mit à discuter, se fâcha et déclara qu'il déménagerait demain. Et l'hôtesse de se désoler. Mais passons. Dans ces cabarets, il y a parfois des rossignols. Tu connais cette vieille anecdote moscovite à la Pierre Hippolytovitch? Un rossignol chante dans un cabaret de Moscou, entre un marchand qui n'aime pas les roulades. Combien coûte le rossignol? 100 roubles. Faites-le rôtir. Et l'oiseau rôti, servez-moi pour 10 copecks. J'ai raconté cela à Pierre Hippolytovitch, mais il ne l'a pas cru, et même s'est indigné. Il parla beaucoup. Je ne cite ses phrases que comme échantillon. Il m'interrompait sans cesse. Dès que j'ouvrais la bouche pour commencer mon récit, il se mettait à dire des balivernes. Il parlait joyeusement et comme dans une demi-griserie. Il riait. De quoi ? Et même ricanait, ce que je ne l'avais jamais vu faire. Ayant bu son thé d'un trait, il s'en versa d'autre. Je le comprends à présent. Il était dans la situation d'un homme qui a reçu une lettre intéressante, longtemps attendue, et qui la pose devant lui sans la décacheter. Puis il la reprend, inspecte l'enveloppe, déchiffre le cachet, va dans l'autre pièce pour donner des ordres, retardant le moment de la curiosité satisfaite. Et tout cela pour une plus grande jouissance. Naturellement, je lui racontai tout. Relation qui dura près d'une heure. Je pris les choses au début. Ma première rencontre, chez le prince, avec Catherine Nikolaïevna, retour de Moscou. Puis développer graduellement l'histoire. Je n'omettais rien, et je ne pouvais rien omettre. Il me menait, il devinait, il me soufflait. J'éprouvais une jouissance immense à cette confession. Je voyais en lui tant de finesse psychologique et quelle aptitude à deviner à demi-mot. Il m'écoutait avec tendresse, comme écouterait une femme. Surtout, il sut faire de sorte que je n'eusse pas honte. Parfois, il m'arrêtait sur quelques détails. N'oublie pas les détails, surtout. Un trait insignifiant d'apparence peut être le trait essentiel. Il comprenait tout. Il comprenait fort bien que l'on pût souffrir de la peur du document et rester un être pur et irréprochable, tel enfin qu'elle m'était apparue aujourd'hui. Il comprit à merveille le mot « étudiant ». Mais comme j'approchais de la fin, j'ai remarqué qu'à travers son bon sourire commençait à percer quelque chose de trop impatient, quelque chose de distrait et de dur. Arrivé au document, je me demandais, faut-il lui dire la vérité? Et malgré mon exaltation, je ne la lui ai pas dite. Je note cela pour le souvenir de toute ma vie. J'ai réédité la version que je lui avais donnée, à elle, attribuant mensongèrement un rôle à Kraft. Ses yeux s'allumèrent. Une ride rampa sur son front. « Tu te souviens bien, mon cher, que Kraft ait brûlé cette lettre. Tu ne te trompes pas. »«
Je ne me trompe pas. » »«
Le fait est que ce billet est très grave pour elle et que si tu l'avais aujourd'hui en ta possession, aujourd'hui même tu aurais pu... »«
Mais ce que j'aurais pu, il omit de me le confier. »«
Est-ce que tu ne l'as pas sur toi ?»
Refrénant tout signe d'émotion.
« Sur moi ?» répondis-je. « À présent, sur moi. Mais puisque Kraft l'a brûlé... »«
Oui ?»
Et il fixa sur moi un regard de feu, un regard immobile, un regard inoubliable. Du reste, il souriait,
mais sa bonhomie de tout à l'heure et ce charme comme féminin avaient disparu. Mon récit terminé. « Chose étonnante, dit-il. Chose très singulière, mon ami. Tu situes votre entrevue entre 3 et 4 heures, et tu dis que Tatiana Pavlovna était absente ?»«
Exactement, de 3 heures à 4 heures et demie. » »«
Eh bien, figure-toi, je suis allé chez Tatiana Pavlovna à 3 heures et demie précises, minute pour minute, et elle m'a reçu dans la cuisine. Je vais chez elle presque toujours par l'escalier de service. »
« Comment ? Elle vous a reçu dans la cuisine ? »
m'écriai-je stupide. « Oui, et elle m'a déclaré qu'elle ne pouvait pas me garder. Je suis restée chez elle 2 minutes, le temps de l'inviter à dîner. »«
Peut-être venait-elle de rentrer ? » ?»«
Je ne pense pas. Elle était en camisole. » »«
Mais Tatiana Pavlovna ne vous a pas dit que j'étais là ? » ?»«
Non. » »«
Écoutez, c'est très grave. »
Cela dépend du point de vue.
Mais tu as pâli, mon cher. Qu'y a-t-il de si grave?
On s'est moqué de moi comme d'un enfant.
Tout simplement, elle aura eu peur de ton impétuosité, comme elle a dit, et se sera mise sous l'égide de Tatiana Pavlovna.
Ainsi, elle m'aurait laissé dire tout cela devant un tiers, devant Tatiana Pavlovna. Celle-ci aurait donc tout entendu.
Ceci est terrible à s'imaginer.
C'est selon, mon cher. Au surplus, tu prenais tantôt la largeur d'esprit.
Si c'est une plaisanterie de sa part, je pardonne. Une plaisanterie avec un malheureux adolescent, soit. Et je ris. Mais malgré tout, l'étudiant était dans son cœur. Il y existe, et y existera toujours. Écoutez, quel est votre avis ? « Dois-je aller chez elle tout de suite pour savoir toute la vérité ?» Je disais, je ris, et j'avais les larmes aux yeux.
« Eh bien, va, mon ami, si tu veux. Il me semble que je me suis sali le cœur en vous racontant tout cela. Ne vous fâchez pas, cher, mais on ne peut parler de la femme, je le répète, de la femme à une tierce personne. Le confident ne comprendra pas. » Un ange lui-même ne comprendrait pas. Si l'on estime la femme, il ne faut pas prendre de confident. Si l'on se respecte, l'on ne doit pas prendre de confident. Je ne me respecte plus. Au revoir, je ne me pardonnerai pas.
Assez, mon cher, tu exagères. Tu dis toi-même qu'il n'y eut rien.
Nous sortîmes, et ce fut l'adieu.
Mais est-ce que tu ne m'embrasseras jamais ? Sincèrement, comme un enfant, comme un fils son père ?
Prononça-t-il avec un singulier frisson dans la voix. Je l'embrassai chaleureusement.
Cher, sois toujours aussi pur qu'à présent.
Jamais de ma vie je ne l'avais embrassé, ni même ne m'étais imaginé qu'il le désirât.
Chapitre 6
1
Bien entendu, il faut y aller. Me répétais-je en hâtant le pas vers mon logis. Elle me recevra. Elle sera étonnée, mais elle me recevra. Si elle ne veut pas me recevoir, j'insisterai. J'enverrai dire que c'est très urgent. Elle pensera que c'est pour le document et elle me recevra. En tout cas, c'est la fin de tout. Qu'est-ce que je perds ? Je ne perds rien. Il faut y aller. Il faut y aller. Eh bien, je n'oublierai jamais que je ne suis pas allée. Et je me le rappellerai toujours avec orgueil. Cela ne sera connu de personne, cela mourra avec moi, mais il est suffisant que je sache que dans un moment pareil, je fus capable d'un mouvement noble.
C'est une tentation, mais je passerai à côté, décidai-je.
Et pourquoi aller chez elle ? Sur quoi me renseigner ? Pourquoi, cette foi qu'à bon escient j'avais en elle, devait-elle l'avoir en moi en ma pureté ? Pourquoi n'aurait-elle pas craint mon impétuosité ? N'aurait-elle pas éprouvé le besoin d'une présence protectrice ? Oui, elle m'a laissé m'épancher devant Tatiana. Elle savait que Tatiana écoutait, car Tatiana ne pouvait pas ne pas écouter. Elle savait que l'autre se moquait de moi. C'est affreux, affreux. Mais s'il n'y avait pas moyen d'éviter cela, en quoi est-elle coupable ? Moi-même, je lui ai menti à propos de Kraft. Je l'ai trompé, parce qu'il n'y avait pas moyen d'éviter cela, et ce fut un mensonge innocent. Mon Dieu, et moi, moi-même, mais qu'ai-je fait tout à l'heure? Est-ce que je ne l'ai pas traîné devant cette même Tatiana? N'ai-je pas tout raconté à Versilov? Mais quelle animosité en son cœur contre cette femme! Quel drame a-t-il pu se passer entre eux? Naturellement, c'est l'amour-propre qui doit être la cause de tout. Versilov n'est capable d'aucun autre sentiment que l'amour-propre. Je rentrai chez moi extrêmement surexcité, et je ne sais pourquoi, extrêmement gai, quoique un peu confus. Craignant de me perdre en analyse, je m'ingéniai à me distraire. Je me rendis chez l'hôtesse. Effectivement, il y avait discussion entre elle, très capricieuse comme toutes les poitrinaires, et son mari. Je les réconciliai, puis allai trouver le locataire récalcitrant, un employé de banque, brut égoïste, du nom de Tcherviakov, que je n'aimais pas du tout, mais avec qui j'étais en bons termes, ayant la bassesse de me moquer souvent de Pierre Hippolytovitch en sa compagnie. Je le dissuadai de déménager. J'achevais de pacifier l'hôtesse, et je tapotais si bien son oreiller qu'elle s'écria « Pierre Hippolytovitch n'en a jamais su faire autant !» Ensuite, de mes propres mains, et repoussant le concours de Pierre Hippolytovitch, je lui préparai dans la cuisine de superbes cataplasmes synapisés. Des larmes de reconnaissance me récompensèrent. L'ennui venait. Je compris que ce n'était pas par bonté d'âme que je manifestais un si beau zèle. Je plantai là tout et réintégrai ma chambre. J'attendais avec impatience Mathieu. Je voulais éprouver une dernière fois la chance. Et d'ailleurs, sentais un immense besoin de jouer. Si je n'avais pas eu la ressource du jeu, il est bien possible que je n'eusse pas résisté au désir d'aller chez elle. Mathieu ne tarderait pas à arriver. Soudain, la porte s'ouvrit. Daria Onésimovna. Je fis une grimace étonnée, désignai un siège, interrogeai du regard. Elle ne disait rien, me regardait dans les yeux et souriait humblement. « Ne venez-vous pas de la part de Lise ?»« Non, je suis venue ainsi. » Je l'avertis que je devais sortir, à quoi elle me répondit qu'elle allait immédiatement s'en retourner. J'eus pitié d'elle. Je noterai ici qu'elle avait trouvé chez nous tous, chez maman et surtout chez Tatiana Pavlovna, beaucoup de compassion. Mais, après l'avoir placée chez Madame Stolbeyev, tous parurent l'oublier un peu, sauf peut-être Lise, qui allait la voir souvent. Personnellement, ses sourires obséquieux me déplaisaient, et aussi les contradictions de sa figure. Même il m'était venu à la pensée qu'elle n'avait pas longtemps regretté son Olia, mais cette fois elle me faisait pitié. Et voilà que, sans dire un mot, elle se baissa, et, les bras jetés autour de ma ceinture, abattit son visage dans mes genoux. Elle saisit ma main, je crus que c'était pour la baiser. Elle la porta à ses yeux, d'où de chaudes larmes jaillirent. Elle était toute secouée de spasmes, mais pleurait silencieusement. J'avais le cœur étreint, malgré le dépit que j'éprouvais. Elle m'embrassait dans toute confiance, sans la moindre crainte que je me fâchasse. Elle qui, un instant avant, me regardait avec inquiétude et servilité. J'essayai de la calmer. « Mon cher petit monsieur, je ne sais que devenir. Aussitôt la tombée de la nuit, je ne puis plus tenir en place. La rue, l'obscurité m'attire. Je sors, et il me semble que je vais la rencontrer dans la rue, dans l'obscurité. Je marche, et il me semble la voir. C'est-à-dire, c'est les autres qui marchent. Je les suis, et je pense, c'est peut-être celle-là qui est mon Olia. Et je pense... Je m'ennuie, je coudoie les gens comme une ivrognesse, il y en a qui se fâchent. Je cache cela en moi, je ne vais chez personne. Même si je vais chez quelqu'un, je m'ennuie encore plus. Je passais devant chez vous, j'ai pensé, tiens, j'irai chez lui, c'est lui le meilleur, et il y était. Petit père, pardonnez-moi, pardonnez à une importune, je m'en vais tout de suite. Elle se leva. Au même moment arrivait Mathieu, Je la pris dans mon traîneau et, en route, la déposai à l'hôtel Stolbeyev.
2.
Ce soir du 15 novembre, c'était la troisième fois que j'allais chez Zertskikov, capitaine des missionnaires qui tenait un tripot de roulettes et de baccara. Je m'y plaisais mieux que dans des maisons de jeux plus mondaines ou trop ignobles. Le ton y était supportable, une sorte de décorum militaire. Comme on sait, je ne suis pas fait pour n'importe quelle société. D'abord, je ne sais pas me tenir en public. Si j'entre quelque part où il y a beaucoup de monde, j'ai la sensation que les regards crépitent sur ma peau en décharges électriques. Dans une salle de jeu, notamment, je ne parviens pas à me donner une contenance. Tantôt je reste à me reprocher l'excès de ma délicatesse et de ma courtoisie, tantôt je me lève et fais une grossièreté quelconque. Et j'enrageais de voir de manifestes drôles se tenir avec distinction. Dans ces milieux où tout m'écœurait, jeux, gains et gens, j'éprouvais pourtant une jouissance extrême, mais qui était une volupté de douleur. Aujourd'hui encore, je suis convaincue que si l'on garde son sang-froid et qu'on ait le sens du calcul, il est impossible de ne pas vaincre la brutalité du hasard aveugle. Or, à chaque instant, je me laissais entraîner comme un gamin. Moi, qui ai pu supporter la faim, je ne peux pas supporter le jeu. La conscience d'avoir en moi, si ridicule que je paraisse, ce trésor d'énergie qui les contraindra tous à changer d'opinion sur moi, cette conscience avait été, dès les jours de mon enfance humiliée, ma lumière et ma dignité, mon arme et ma consolation. Sans elle, je me serais tué tout enfant. Ainsi, pouvais-je ne pas être irrité contre moi-même à constater en quel être pitoyable je me changeais à la table de jeu? Il fallait qu'à cette même table, je me réhabilitasse. Voilà pourquoi je ne pouvais renoncer au jeu, je le vois nettement aujourd'hui. Enfin, je ferai encore un aveu. J'étais déjà corrompu. Il m'était déjà difficile de renoncer à un dîner de 7 plats, à Mathieu, au magasin anglais et à l'opinion de mon coiffeur. 3. Je pris place au coin de la table et commençai à jouer de petites sommes. Je passai ainsi 2 heures à un jeu indécis où, finalement, s'équilibraient à peu près gains et pertes. Sur mes 300 roubles, j'en perdais 15. Ce résultat m'exaspéra par son insignifiance. Il s'était d'ailleurs produit un petit incident qui avait contribué à m'échauffer l'humeur. À ces tables de jeu, le filou abonde, et il arrive que ce soit un joueur honorablement coté. C'est ainsi qu'Aferdov, le joueur bien connu, est un voleur. Ce ne l'empêche pas de porter haut, et il n'y a pas longtemps encore, je l'ai rencontré en ville, conduisant une paire de poneys, à moi volés. De cela je parlerai plus tard, mais ce qui se passa dans la soirée où nous sommes n'en est que le prélude. Pendant ces 2 heures, je m'étais donc tenu à mon coin de table. À ma gauche était installé un ignoble godelureau, un petit juif, je crois, qui a des intérêts dans quelque chose et écrit dans je ne sais quoi. Je venais de gagner 20 roubles. 2 billets rouges s'étalaient devant moi, et soudain je vois mon juif en prendre tranquillement un. Je veux l'arrêter, mais de l'air le plus insolent et sans élever la voix, il m'annonce que c'est son gain qu'il vient de jouer et qu'il a gagné. Et, comme dédaigneux de continuer une conversation si mesquine, il détourna la tête. Comme par un fait exprès, j'étais mal disposé. Je crachais, me levais et passais dans la pièce voisine, lui abandonnant le billet rouge. Ce fut une grave faute et qui devait avoir des conséquences. 3 ou 4 joueurs avaient remarqué notre discussion et à me voir me désister si facilement avaient dû me prendre pour un tricheur. Il était juste 00h. J'avais réfléchi. Un plan s'était organisé dans ma tête. De retour dans la salle de jeu, je changeai mes billets en demi-impérial, plus de 40 pièces que je partageais en 10 tas.
je mettrai consécutivement 10 enjeux sur 0, à 4 demi-impériales chacun. Si je gagne, ce sera ma veine. Si je perds, tant mieux et je ne jouerai plus jamais. Je ferai remarquer que durant ces 2 heures, le 0 n'était pas sorti une seule fois, de sorte que personne ne s'aventurait plus sur 0. Je jouais debout, les dents serrées. À la 3e mise, Dzerchikov annonça 0, et l'on me compta 140 demi-impériales d'or. Il me restait 7 mises, et j'avais continué, tandis que tout dansait autour de moi. « Venez ici !» criai-je à travers la table à un vieux beau, blanc moustachu sur un timbrique, qui depuis 2 heures perdait inexorablement ses modestes enjeux. « C'est ici, la veine !»
« C'est à moi que vous parlez ?»«
Oui, à vous, là-bas. Vous perdrez jusqu'au dernier copec. »«
Ce n'est pas votre affaire, et je vous prie de ne pas me déranger. »
Mais je ne tenais plus en place. Un officier lorgnait la somme amassée devant moi et disait à voix basse à son voisin
« C'est singulier. 0. Non, je ne me risquerai pas sur 0. »«
Risquez-vous, colonel !» m'écriai-je en engageant une nouvelle mise.
« Je vous prie, moi aussi, de me laisser tranquille. Gardez vos avis, on n'entend que vous. »«
Je vous donne un bon conseil. Eh bien, voulez-vous parier que le 0 va sortir de nouveau, et tout de suite ?»«
10 pièces d'or, voilà, je les mets. Voulez-vous »
Et je poussai 10 demi-impériales.
« Un pari de 10 pièces d'or ?
Soit, je tiens contre tous que le 0 ne sortira pas. »«
10 louis d'or, colonel. » »«
Quel ?» Louis d'or,
10 demi-impériales, en style élevé.
Louis d'or,
alors dites-le que c'est 10 demi-impériales, et ne vous permettez pas de plaisanter avec moi.
Bien entendu, je n'espérais pas gagner le pari. Il y avait contre moi 36 chances pour 1. La roulette tourna, et à la stupéfaction unanime, le 0 sortit. La gloire du gain m'enivra. De rechef me furent comptées 140 demi-impériales. Dzerchikov m'avait demandé si je voulais bien accepter une partie en papier. Je lui avais répondu indistinctement je ne sais quoi, car j'étais désormais incapable de m'exprimer avec calme. La tête me tournait, mes jambes étaient molles. De la paume de ma main, je ratissais machinalement billets et or. À ce moment, je vis entrer le prince et Darzan. Ils arrivaient de quelque autre tripot, ou, comme j'ai su plus tard, ils s'étaient fait décaver.
Hé, Darzan, ici, la veine. La veine est sur le 0.
J'ai tout perdu. Plus d'argent, répliqua-t-il sèchement. Quant au prince, il affectait de ne pas me voir.
Voilà de l'argent, criai-je en montrant mon tas d'or. Combien voulez-vous?
Dites donc, me rembarra-t-il. « Je ne vous ai pas demandé d'argent. »«
On vous réclame, » m'apprit Dzerchikov en me tirant par la manche.
Depuis un moment, en effet, le colonel, qui me devait sur Paris 10 demi-impériales, s'impatientait à m'appeler.
« Veuillez prendre, » grogna-t-il, cramoisi de colère. « Je ne suis pas obligé de rester à votre disposition indéfiniment. Vous direz après que vous n'avez rien reçu. Comptez. »
« je vous crois, colonel, sans compter. Seulement, je vous en prie, ne criez pas si fort. »«
Monsieur, je vous en prie, adressez vos discours à quelque autre, pas à moi. Je n'ai pas gardé les cochons avec vous. »
Il y avait déjà dans les groupes des exclamations à mi-voix.
« C'est singulier de laisser entrer des gens comme ça. Qui est-ce? Un gamin ?»
Mais je n'écoutais pas. Je jouais par liasse, à tort et à travers, mais plus sur 0. «
Partons, Darzan, » dit le prince derrière moi.
« Chez vous ? » demandai-je en me tournant vers eux. « Attendez-moi, nous sortirons ensemble. J'en ai assez. » J'avais gagné, et c'était un gain considérable.
« Halte ! » m'écriai-je.
Et les mains tremblantes, je me mis à empoigner l'or et à l'engouffrer dans mes poches, sans compter. Puis je passai au billet que je voulais caser ensemble dans mes goussets. Subitement, la main potelée d'Aferdov, qui était assis à ma droite
et jouait aussi de fortes sommes, se posa sur 3 billets de 100 roubles et les couvrant de la paume. « Pardon, ceci n'est pas à vous !» scanda-t-il sévèrement, mais d'une voix assez douce. C'était cela dont je devais, quelques jours plus tard, subir la répercussion. Pour le moment, je jure que ces 3 billets étaient miens. Mais, pour ma malchance, ma certitude se compliquait d'un 1/10 de doute, et pour un honnête homme, c'est encore trop. Or, je suis un honnête homme. Et puis, je ne savais pas alors qu'Aferdov fût un voleur. J'ignorais jusqu'à son nom. De sorte que je pouvais, à la rigueur, admettre une méprise. De tout temps, j'avais dédaigné de compter les sommes qui s'accumulaient en désordre devant moi. Devant Aferdov, il y avait aussi de l'argent, mais rangé et compté. Enfin, tout le monde ici connaissait Aferdov. On le prenait pour un capitaliste. On s'adressait à lui avec égard. Tout cela m'influençait, et cette fois encore, on ne me vit pas m'insurger. Je me contentais de dire, les lèvres tremblantes, « Je regrette beaucoup de ne pas me souvenir au juste, mais il me semble certain que ces billets m'appartiennent. » Pour dire de pareilles choses, il faut être sûr, et vous avouer ne pas vous souvenir au juste, prononça Aferdov insupportablement hautain. Exclamations anonymes. Mais qui est-ce? Comment tolérer pareilles choses? Ça ne lui arrive pas pour la première fois. Tout à l'heure, là-bas, avec Reichberg, il y a déjà eu une contestation pour un billet de 10 roubles. Siffla une petite voix lâche. « Eh bien, assez, assez » exclamai-je. « Je ne proteste pas. Prenez. »« Prince, où sont donc le prince et Darzan? Ils se sont en allés. Messieurs, vous n'auriez pas vu partir le prince et Darzan ?» Et saisissant enfin tout mon argent, gardant même dans les mains des poignées de louis, je me mis en devoir de rattraper le prince et Darzan. Ils avaient descendu l'escalier sans donner nulle attention à mes appels. Quand je les rejoignis, en passant, j'avais, le diable me prenne si je sais pourquoi, fourré 3 demi-impériales dans la patte du Suisse ahuri. On avait déjà fait avancer le trotteur du prince, et Serge avait pris place. « Je vais avec vous, prince, et chez vous » criai-je en saisissant le tablier. Soudain, devant moi, Darzan sauta dans le traîneau, et le cocher, m'arrachant des mains le tablier, enveloppa ces messieurs. « À la maison !» commanda le prince. « Attendez !» hurlai-je en me cramponnant au traîneau. Mais le cheval partit. Je roulai dans la neige. Il me sembla qu'ils avaient ri. Élant la première guimbarde qui passa, je me lançai à leur poursuite. 4. Pour m'exaspérer, la rosse se traînait lamentablement, bien que le cocher lui asséna sur le rable pour 1 rouble de coups de fouet. Pourboire promis. Quand j'entrai chez le prince, il venait seulement d'arriver, car il avait déposé Darzan à domicile, de sorte qu'il était seul. Pâle de colère, sans doute sa récente perte au jeu. Il marchait de long en large dans son cabinet. « Encore vous ? » dit-il. « C'est pour en finir, monsieur. Comment avez-vous osé agir de la sorte avec moi ?» Il me regardait d'un air interrogateur. « Si vous vouliez partir avec Darzan, expliquai-je en suffoquant, vous n'aviez qu'à dire que vous partiez avec Darzan, mais vous avez fait partir le cheval et je... « Ah oui, il me semble que vous êtes tombé dans la neige. » Et il se mit à rire. « On répond à cela par une provocation. Aussi faisons d'abord nos comptes. » D'une main fébrile, j'expulsai mon argent sur le canapé, sur la table de marbre, sur un livre ouvert, par liasse, par poignée. Plusieurs pièces roulèrent. « Je crois, Dieu me pardonne, que vous avez gagné. Cela se voit à votre ton. » Jamais encore il ne m'avait parlé avec une telle volonté d'insolence. « Il y a, je ne sais combien, il faudrait compter. Je vous dois près de 3 000 roubles, ou combien, plus ou moins ?»«
Il me semble que je ne vous force pas à me rembourser. »«
Mais moi, je veux vous rembourser. Je sais que cette liasse est de 1 000 roubles.
J'avais commencé à compter, mais mes mains grelottaient. J'interrompis le feuilletage. « Inutile, elle est bien 2000. Je la prends pour moi. Et tout le reste, tout ça, prenez-le pour ma dette, pour une partie de ma dette. Il y a là près de 2000 roubles, peut-être plus. »
« Tout de même, vous en gardez une 2000, » sourit le prince.
« En avez-vous besoin? Dans ce cas, je croyais que vous ne voudriez pas. Mais puisque vous en avez besoin, voici. »
« Non, nul besoin, » dit-il en se détournant avec mépris, et il se remit à arpenter la chambre. Puis, s'arrêtant soudain en face de moi, et sa face était atrocement durcie d'une provocation.
« D'où diable cette idée de me rendre mon argent ?
Je vous le rends pour, à mon tour, exiger de vous des comptes.
« Allez-vous-en avec vos éternels gestes et paroles !»
Il trépignait de rage. « Depuis longtemps, je voulais vous chasser tous les deux, vous et votre Versilov. »«
Vous êtes fous ?
Vous m'avez harassé tous les deux par vos phrases. À propos de l'honneur, par exemple, pouah ! Depuis longtemps, je voulais rompre. Je suis content, content que le moment soit venu. Je me sentais gêné et je rougissais d'être forcé de vous recevoir, tous les deux. Et maintenant, je ne me sens plus enchaîné par rien. » Par rien, sachez-le. Votre Versilov m'excitait à attaquer Madame Akhmakov et à la déshonorer. Osez parler chez moi de l'honneur. Vous êtes des gens sans honneur, les deux, les deux. Et vous, avez-vous jamais eu honte de prendre de l'argent chez moi?
Je prenais cet argent chez vous en camarade?
Avais-je commencé tout doucement. Vous me l'aviez offert vous-même, et j'avais cru en votre sincérité.
« Je ne suis pas votre camarade. Ce n'est pas pour cela que je vous donnais de l'argent. Et vous savez bien pourquoi je vous en donnais. »«
Je prélevais sur le compte de Versilov. C'était bête peut-être, mais je... »«
Vous ne pouviez rien prélever sur le compte de Versilov sans sa permission. Et je ne pouvais vous donner son argent sans sa permission. Je vous donnais mon argent, et vous le saviez. Vous le saviez et vous le preniez. Et je supportais la haïssable comédie dans ma maison. »
Je savais? Qu'est-ce que je savais? De quelle comédie parlez-vous? Pourquoi donc me donniez-vous donc de l'argent?
Pour vos beaux yeux, mon cousin, répliqua-t-il en me riant au nez.
Oh diable! Hurlai-je. Prenez tout, prenez ces 1000 aussi. Maintenant nous sommes quittes, et demain...
Et je lui jetai à la poitrine cette liasse que j'avais réservée pour me refaire. En 3 pas, énorme, il fut sur moi.
« Oserez-vous dire ?»
prononça-t-il d'un air farouche et en martelant les syllabes. « Que lorsque vous preniez mon argent, vous ne saviez pas votre sœur enceinte de moi ?»«
Comment ? Quoi ? »
m'écriai-je, et tout d'un coup, mes jambes faiblirent, je m'affaissai sur le sofa. Il me disait plus tard que j'étais devenu blanc comme un mouchoir. Mon esprit se troubla. Je me souviens qu'un temps assez long, nous nous regardâmes. Une sorte de frayeur passa sur son visage, il se baissa rapidement, me prit par les épaules et me soutint. Je me rappelle trop son sourire figé dans de la méfiance et de l'étonnement. Sûr de ma culpabilité, il ne s'attendait pas à un tel effet de ses paroles. J'ai eu une syncope, mais brève. Revenu à moi, je me mis sur pied, le regardai, tâchais de comprendre. Et subitement, toute la vérité afflua dans mon esprit, clos depuis si longtemps. Si l'on avait fait d'avance l'hypothèse de ces circonstances et qu'on m'eût demandé « Que feriez-vous ?», j'aurais certainement répondu « Je le déchirerais en morceaux ». Mais il en advint d'autre sorte, et indépendamment de mon vouloir. Tout à coup, j'avais couvert mon visage de mes mains et j'avais commencé à pleurer à chaudes larmes amères. Dans le jeune homme se retrouva un petit enfant. J'étais retombée sur le canapé et sanglotais.
« Lise, Lise, pauvre malheureuse !»
Le prince me croyait enfin.
« Dieu, que je suis coupable envers vous ! » s'écria-t-il douloureusement. « Quelles horribles choses j'avais pensé de vous !»
Pardonnez-moi, Arkad Makarovitch. »
Je me relevai et, debout devant lui, voulus lui dire quelque chose, mais je me tus, sortis précipitamment. De retour chez moi, je me jetai sur le lit et, dans l'obscurité, pensais. Dans des moments pareils, on ne pense pas avec harmonie et avec suite. Mes idées semblaient danser au bout d'un fil. Par moments, le chagrin me relançait, je me tordais les mains. « Lise, Lise !» Et de nouveau, je pleurais. Je dormis d'un profond sommeil paisible.